800 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Je me demande si en filigrane, ou même secrètement, ou plus simplement inconsciemment, je n'ai pas créé cette émission pour tenter d'essayer de résoudre une des questions que je me pose depuis de nombreuses années, celle de la fiction. À quoi ça sert? Si l'on essaye d'objectiver, la fiction n'est que la fabrication artificielle d'une histoire par une personne, une autrice ou un auteur. En fait, c'est une manière de supercherie, puisque l'auteur sait que ce qu'il raconte n'est qu'une création ex nihilo, même s'il l'a teinte du plus grand réalisme possible, et que le lecteur sait, lui, pertinemment, que ce qu'il lit n'est qu'une invention sans rapport aucun avec la réalité. Alors, quel plaisir avons-nous à nous raconter des histoires? Ne serions-nous finalement pas que des grands enfants? Et cette question est venue à nouveau me percuter avec le livre de Chloé Thomas, Fredon. De quoi est fait le plaisir que j'ai éprouvé dans la lecture de cette exploration de l'âme humaine presque vénéneuse? Qui peut être mieux placé que Chloé Thomas pour en parler? Bonjour Chloé Thomas.
Bonjour.
Je vous avais invité dans l'émission il y a juste un an, c'était le 10 mai 2023, nous avions parlé de votre essai « Parce que la nuit ». Au cours de l'émission, vous aviez parlé d'un roman à paraître en 2024, c'est chose faite avec Fredon, publié chez POL. Mais avant de parler de ce livre, une question. Je vous avais laissé dans la salle de travail de la BNF, vous y travailliez pour le compte du CNRS sur un projet autour de la mauvaise poésie. Il en est où ce projet de publication?
Il n'est pas très avancé. J'ai continué à travailler dessus, mais j'ai une centaine de pages qui sont écrites. Je viens d'avoir une bourse pour travailler sur le sujet à Berlin cet été, pour lui donner aussi une dimension plus comparatiste, donc prendre en compte la mauvaise poésie allemande. Donc déjà c'était un sujet assez vaste et maintenant ça devient un sujet très vaste. J'espère beaucoup écrire cet été et soumettre un projet à des éditeurs d'ici la fin du mois de septembre.
C'est pas mal finalement, puisque vous bénéficiez d'une bourse pour aller à Berlin, il y a pire, vraiment pire que ça dans la vie. Hein.
Ah ça c'est sûr.
Sans prendre de raccourcis, et au regard de vos recherches, vous pouvez nous confirmer qu'il y a de la mauvaise poésie publiée en France?
Jamais.
Donc revenons plutôt à Fredon. Déjà le titre, il est mystérieux, c'est très interpellant. Pourquoi ce titre-là en 6 lettres, alors que finalement on voit souvent des titres à rallonge dans les romans qui sont publiés? Fredon, pourquoi?
Alors plusieurs personnes m'ont demandé si c'était Fredon comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc c'est Frodon évidemment dans Le Seigneur des Anneaux. Mais je me suis dit après coup que sur un malentendu, du coup, ça pouvait faire un succès de librairie. Mais c'était un mot que j'avais en tête, que je connaissais depuis longtemps sans avoir d'ailleurs une idée très précise de son sens. Enfin, c'était pour moi un terme technique en musique. Et que je confondais d'ailleurs avec Bourdon, qui est ce qu'on appelle un drone. Une espèce de basse continue. Je pensais qu'un fredon c'était ça. En fait, c'est plutôt une ornementation sans forme fixe. Quand j'en parle à des amis musiciens, même spécialistes du baroque, généralement ils me disent non, je connais pas le fredon. Mais je me suis attachée quand même à ce mot. Je pense qu'il est assez reconnaissable. Enfin, il y a un côté onomatopée. Ça évoque fredonner. Ça évoque Freuden aussi. Donc, ce qui va bien avec la folie de la narratrice. Et voilà, il arrive qu'on se donne un titre de travail et qu'on finisse par s'y attacher. Donc c'est ce qui s'est passé.
C'est un titre énigmatique. Bien évidemment, le Frodon du Seigneur des Anneaux surgit automatiquement, mais on comprend bien qu'il n'y a pas de quête de l'anneau dans ce livre-là. Alors, ça parle de quoi, Frodon ?
Une façon simple de répondre, ce serait de dire que ça parle de musique. Mais en même temps, dire ça créerait des attentes et des déceptions, puisque finalement, il y a pas de description de musique, pas de la narratrice est pianiste, mais on rentre pas dans une sociologie du milieu de la musique classique non plus. Ça interroge l'idée de la musique, on va dire.
Ça interroge l'idée de la musique. Encore que la musique, elle est présente, on va dire, comme quand on parle de vision périphérique. C'est-à-dire qu'elle est au bord. Elle est toujours au bord. On voit bien, on voit des spectateurs, on voit des élèves, on voit des musiciens, mais ils sont vraiment en vision périphérique, quoi. Donc l'héroïne, le personnage principal, c'est une femme, une jeune femme, qui s'appelle Constance. Un joli nom en fait, hein, un peu daté en fait, un peu ancien, mais un joli nom. Et en fait, Constance est musicienne, mais vous lui faites dire, j'ai déjoué ce mensonge pesant, infini, j'ai compris que ce n'est pas la musique que nous aimions, mais l'idée de la musique. Ça.
Je crois que c'est toujours un peu risqué de dire ce qu'on a voulu dire. Tout est dans le texte, y compris les non-dits ou ce qu'il y a d'incompréhensible. Mais c'est vrai que la musique devient dans le livre une espèce de divinité un peu vague et comme une espèce de mensonge auquel on a fini par s'attacher. Le point de départ, c'est que cette héroïne qui est pianiste, elle découvre un jour qu'elle n'entend plus la musique, qu'elle ne fait plus la différence entre la musique et le bruit, et finalement arrive à cette conclusion que c'est parce que la musique n'existe pas, enfin qu'elle a vécu dans ce mensonge-là toute sa vie.
Donc je suis assez content, j'ai utilisé le mot supercherie. Alors, si on se place du côté de Constance, hein, bien évidemment, hein, parce que tout est vu du côté de Constance. Alors, ce qui est étrange avec ce personnage, c'est qu'elle est née sourde, elle est opérée, on lui découvre une oreille absolue. Ça veut dire qu'elle entend la musique de manière parfaite. Enfin, elle est capable de donner la note d'un son sans aucune difficulté. Ce qui paraît un don exceptionnel pour nous, mais pour elle, c'est un état qui en est d'ailleurs parasitant. Enfin, qu'elle a du mal à vivre. Et c'est là que surgit donc ce que vous venez d'évoquer, la musie. Alors, j'ai essayé de le dire pour le comprendre parce que c'est difficile à comprendre. La musie, ça s'écrit LAMUSIE. La musie. C'est quoi la musie ?
C'est alors pas une maladie parce que ça n'a rien de maladie, c'est pas une pathologie, mais ça désigne la condition des personnes qui ne sont pas capables d'entendre la musique, c'est-à-dire d'entendre que la musique est d'une façon ou d'une autre différente du reste des sons. Et donc pour eux, la musique est un bruit. Et c'est finalement plus courant que ce qu'on croit. C'est comme être daltonien, où voilà, on n'a pas accès à une partie de ce qui est une réalité pour la plupart des gens. Donc c'est des personnes qui typiquement, quand un morceau de musique passe à la radio, vont changer de fréquence et ça peut être congénital et ça peut survenir plus tard dans la vie, généralement à cause d'un trauma crânien.
Alors ce qui est étonnant, c'est que cette femme qui est passée par l'état de surdité, qui a entendu, qui a une oreille parfaite, qui a pris des cours de musique, qui est devenue une musicienne, une grande musicienne, une très grande musicienne, tout d'un coup retombe, fait un grand retour arrière, et tout d'un coup se rend compte que ce qu'elle produit, c'est du bruit, et c'est pas de la musique. Ça ne s'appelle pas musique pour elle.
Oui, je ne m'étais pas résumé les choses comme ça, mais bon, c'est sans doute aussi une expérience assez courante dans la vie humaine, c'est de se rendre compte de ce à quoi on a cru toute la vie, en fait, était un mensonge, ou qu'on s'est dépensé pour obtenir quelque chose qui, en fait, ne vaut rien.
Sauf qu'elle s'est dépensée beaucoup, sauf qu'elle a acquis beaucoup, qu'elle est montée très haut. Cette histoire, elle est venue d'où ? Comment une histoire comme ça peut naître dans la tête de quelqu'un ? Il a envie de la raconter. Ça vient d'où ?
Ça, c'est une question difficile. Parce que c'est difficile d'y répondre. C'est pas parce que c'est trop intime, mais c'est juste que généralement, on ne sait pas d'où sortent les choses. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je suis pas du tout musicienne moi-même, mais... la musique est importante pour moi, même si c'est un peu paradoxal de le dire parce que j'en écoute de moins en moins. Mais par exemple, j'ai énormément d'amis musiciens et je pense que c'est quelque chose qui m'attire chez les gens de manière générale. C'est une qualité que j'admire et donc depuis très longtemps, je me suis toujours entourée de musiciens et notamment de pianistes. Enfin, j'en connais un certain nombre, j'en fréquente j'ai une forme de fascination pour ces compétences-là, qui sont des compétences techniques, et pour ce talent particulier que je n'ai pas. Voilà, c'est peut-être ça le point de départ, tout simplement.
Alors, ce personnage de Constance, il est mystérieux, mais en fait, pour moi, il est la pièce manquante du Bartleby d'Herman Melville. Bartleby oppose au monde la célèbre phrase « je préférerais ne pas ». Mais surtout, c'est nous qui regardons Bartleby. Et dans le cas de Constance, c'est elle qui regarde le monde, qui nous regarde, et on sait précisément ce qu'elle pense. Comment vous voyez ça ? Enfin, est-ce que ça vous parle, cette association-là ?
Alors, j'y avais pas pensé du tout, mais oui, c'est effectivement, il y a un côté Bartleby, un côté j'aimerais mieux pas, chez elle. Mais je crois que le fait d'être dans sa tête, puisque c'est elle la narratrice, c'est écrit à la première personne, ça a eu un côté finalement assez libérateur. Enfin, à un moment, je me suis dit, mais en fait, elle est folle, du coup, je peux tout faire. Et ça permettait, enfin, cette folie, ce délire permettait un petit peu de tout tester, de tout légitimer. Enfin, j'ai un moment arrêté de me poser la question de pourquoi ça allait dans telle direction ou dans telle autre. Et ça, c'était possible parce que on était dans sa tête, justement.
Alors, donc, on est aussi d'ailleurs pas très loin de l'univers des personnages de Kafka, hein, dans cette folie intérieure. Enfin, et ce qui est fou, enfin, dans Fredon, c'est qu'on est tout le roman, c'est un long monologue. On vit dans la tête de cette personne et on a vraiment l'impression, soit de lire la métamorphose, enfin de sentir ce monde qui vient agresser cette personne, c'est une sensation très forte, hein, à la lecture de Fredon, c'est vraiment très très sensible. C'est aussi l'histoire d'une enfant. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été assignée à la musique sans libre arbitre, même à l'âge adulte?
C'est en tout cas ce qu'elle décrit après coup, avec une forme de colère, voire de haine. Mais voilà, l'idée que on a compris à un moment que son destin c'était de faire de la musique et que donc il fallait qu'elle fasse de la musique. Et ça, cette idée d'obéissance, c'est très présent dans l'idée même de musique, en fait. J'ai assez peu lu autour, enfin, quand je préparais le livre, mais il y a un essai que j'ai relu, que j'avais lu il y a longtemps, c'est La haine de la musique, de Pascal Quignard. Bon, parce que l'idée de haine, évidemment, m'intéressait, mais il commence un petit peu par là, enfin, ce lien très fort entre la musique et l'asservissement.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, quand vous nous en parlez, vous nous montrez bien que ce personnage est déstabilisé, déséquilibré, en position incertaine, en position fragile. Enfin, c'est vraiment... on a l'impression que c'est quelqu'un qui est, effectivement, qui est dans une forme de folie, enfin, quasiment de folie, quoi.
Oui, de fragilité, mais aussi de mégalomanie assez totale. Enfin, c'est vrai qu'elle n'arrête pas de penser que tout tourne autour d'elle, qu'elle a tout pouvoir, et qu'elle contrôle les destinées. Donc il y a à la fois un rejet de la musique et puis l'idée que parce qu'elle joue de la musique, elle continue à faire marcher le temps, en fait. Donc elle se prend pour Dieu.
Mais pourtant, elle a conscience de n'être qu'un jouet. Par exemple, dans les mains de... Alors, il y a Madame. Madame, c'est la personne qui organise sa vie musicale, hein, qui fait ses plannings, qui signe les contrats. Enfin, bref, c'est Madame, quoi, avec un grand M majuscule. Mais elle a conscience aussi, peut-être qu'elle est mégalomane, mais elle a aussi conscience d'être un jouet dans les mains de Madame et dans les mains de beaucoup d'autres gens. Mais quand on voit le parcours, donc elle a cette crise, tout d'un coup, elle... Alors c'est vraiment, là on est chez Bartleby, quoi. Je préférerais ne pas, elle joue plus de musique. C'est clair, c'est arrêté. Madame n'a qu'une solution, c'est de l'envoyer dans des maisons de repos, mais d'y mettre un piano dans un coin, en pensant que peut-être elle retrouverait la capacité à jouer. Elle n'est qu'un jouet, elle a ce sentiment-là de n'être qu'un jouet. Hein.
Elle a ce sentiment-là, mais qui va aussi avec sa mégalomanie, c'est-à-dire que tout ce qui lui arrive, elle imagine que c'est pour la pousser à rejouer. Et en fait, encore une fois, on a que son point de vue de narratrice... pas très fiable. Donc on ne sait pas ce qui fait partie, ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la réalité.
Oui, parce que avec son amie, à un moment donné, elle se retrouve avec une amie et son compagnon, et son amie qui semble être assez bienveillante, qui semble vouloir l'aider, l'accompagner, la soutenir. Les propos que Constance tient par rapport à cette amie sont destructeurs, quoi. Enfin, c'est terrible, quoi.
Oui, on retrouve d'ailleurs l'hyper-compétition qui peut régner.
Oui, parce qu'elle est musicienne, son amie.
Voilà.
je vous propose de faire une pause musicale. D'écouter de Baicho Dagua, c'est un titre extrait du nouvel album de Pierrick Menuhaux, The Nearness. Pierrick Menuhaux qui anime sur Radio G l'émission Repère Jazz, vous écoutez Entre les Pages, vous écoutez Radio G, fréquence 101.5, Et aujourd'hui, je reçois Chloé Thomas pour son roman Fredon, paru aux éditions POL. Le premier mot du roman, c'est « j'entends ». La dernière phrase, c'est « la musique n'a jamais existé ». En fait, c'est pas tout à fait la dernière phrase. La dernière phrase, elle est en quatrième de couverture. Et c'est « j'entends toujours ». C'est vous qui avez choisi cette forme-là de mettre en quatrième de couverture ces deux petits mots « j'entends toujours ».
Oui, ça c'est un peu la règle chez POL, c'est que c'est les auteurs et autrices qui écrivent les quatrièmes.
Ah, c'est magnifique.
Alors oui, c'est très agréable d'avoir cette liberté, et puis surtout ça sort un peu des quatrièmes avec une biographie un peu convenue. Oui. Et en même temps, c'est extrêmement risqué. Enfin, j'ai l'impression à la fois de m'être posé beaucoup de questions et de pas avoir eu beaucoup de réponses pour ce choix de quatrième. Je me dis que c'est peut-être pas très engageant quand on retourne le livre dans une librairie de lire ça, voilà, c'est ce qui m'est venu et j'aimais bien cette idée justement de après la dernière page, il y a encore une dernière page qui en fait laisse sur une forme d'attente.
Les lecteurs compulsifs comprendront, mais la quatrième de couverture est souvent déceptive, quoi. Enfin, elle n'a aucun intérêt. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à la bricoter, à pas la regarder d'ailleurs, parce que ça ne dit rien. Sinon, quand c'est l'auteur qui l'écrit lui-même, un exercice d'autosatisfaction qui est pas très plaisant à lire en réalité. Et là, moi, j'ai terminé le livre. Quand je l'ai eu en main, je l'ai tourné comme ça, mais j'avais pas fait attention à cette petite ligne noire, et c'est en l'ayant lu et fait terminer le livre quoi, où j'ai vu cette phrase et j'ai trouvé que c'était lumineux. Lumineux. Ça éclaire, ça ouvre et ça éclaire. Lors de notre première conversation, je vous avais posé la question sur votre désir d'écrire. Est-ce que vous vous êtes réalisé dans l'écriture de ce roman?
Je saurais pas ce que veut dire réaliser.
Est-ce qu'il y a une forme de plénitude, de sentiment, d'euphorie ou de richesse, ou de se dire d'être satisfait toi en réalité?
En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je suis contente que ce livre existe. Et je fais pas vraiment de hiérarchie. Je mets pas le roman au-dessus de l'essai ou même de la traduction, parce que je suis traductrice aussi, j'ai énormément de plaisir à traduire. Et j'ai l'impression que quand on a écrit une fois un roman, tout le monde considère un petit peu que, en fait, c'est parce qu'on a écrit un roman, donc en fait, on est romancier, et que tous les autres livres seraient des concessions ou des réponses à des commandes. Personnellement, je hiérarchise pas, j'ai pas l'impression de plus me réaliser dans le roman que dans autre chose, y compris mes livres universitaires d'ailleurs. Enfin, je suis aussi contente qu'ils existent.
Non, mais c'était une question parce que le livre précédent était un essai, parce que la nuit, c'est une autre forme d'exercice en réalité. Ça oblige à balayer un champ, à travailler, à explorer. Alors que là, on est en roue libre, c'est l'imaginaire qui est en roue libre. Et c'est en ce sens que je me disais, mais on va aller plus loin, parce que malgré tout, vous avez une écriture extrêmement particulière. Vous avez des phrases longues, pour ne pas dire très longues. Est-ce que c'est une déformation de l'écriture scientifique? La volonté d'être très précis dans ce que l'on veut énoncer?
Je suis pas sûre que ce soit ça. De toute façon, on écrit comme on peut et pas comme on veut, hein, mais... Je dirais plutôt que je lis beaucoup, j'aime beaucoup des auteurs avec des phrases longues. J'aime bien Proust, voilà. Et d'ailleurs, j'avais lu quelque chose d'intéressant sur Proust, qui reliait ses phrases très longues et très hachées avec beaucoup de virgules à ses crises d'asthme. C'est quelque chose que je partage avec Proust, c'est que je suis asthmatique. Donc voilà.
La destinée.
D'où la mégalomanie qui me fait me prendre pour Proust.
Donc, la destinée des asthmatiques, c'est toujours. Malgré tout, est-ce que vous qui êtes qui enseignez la littérature, enfin qui êtes dans le champ de la littérature, même par la traduction, est-ce que cette au-delà de l'essoufflement, est-ce que ça produit quelque chose de particulier, ces phrases très longues? Enfin, moi, on s'en rend pas compte de la phrase très longue. Donc c'est vachement bien, parce que souvent c'est pénible. Hein. Moi, j'ai lu des auteurs en phrases très longues et c'est des fois extrêmement pénible. Là, on ne le voit pas, mais tout d'un coup, on prend conscience que on est dans une phrase avec des propositions qui viennent les unes après les autres et qui renvoient des virgules, etc. Est-ce que littérairement, est-ce que ça produit est-ce que ça produit quelque chose, ce type d'écriture-là, ce type de longue phrase-là?
Je dirais que je recherche pas la longueur pour la longueur. En revanche, il y a une écoute constante au rythme. Et qu'en fait, j'écris en alexandrin beaucoup. Enfin, même si c'est de la prose, il y a beaucoup d'alexandrins cachés. J'ai l'impression que je suis la seule personne à le savoir. Typiquement, quand je travaillais avec la correctrice, parfois elle me proposait des choses, disait non, mais là, on perd les 12 syllabes. Voilà.
Ah, c'est étonnant ça. C'est étonnant. J'avais pensé à la poésie dans la forme de l'écriture, dans l'énoncé des mots, etc. Mais j'étais pas. Va falloir que je le relise parce que là, ça m'intrigue vraiment. Enfin, je trouve que c'est très intrigant cette manière dont vous abordez finalement l'écriture tout bonnement en réalité. Hein. Fredon, c'est un monologue. Hein. Il y a que la pensée de Constance. Est-ce que vous le vouliez ça au début, d'être dans la tête de quelqu'un et uniquement dans la tête de quelqu'un?
Je commence jamais un livre en ayant une idée très précise de ce que je vais faire, donc voilà, je crois que les choses s'imposent un petit peu. Et là, c'était un peu une évidence en fait, la première personne et. Et encore une fois, c'est vraiment ça qui m'a permis de une liberté assez totale dans ce que je pouvais lui faire dire et dans le délire dans lequel elle pouvait aller.
Mais parce que vous lui faites dire et faire des choses qui sont horribles. Hein. Enfin, je prendrais la scène, je crois la scène avec l'élève Amélie. Amélie, donc une élève, on imagine bien couvée par ses parents. Enfin. Gentille, voilà, qui vient voir sa prof de piano pour prendre des cours de piano. Enfin, on voit la scène avec un petit gilet et tout. Enfin, on a la scène dans la tête. Et elle referme le capot du piano sur les mains d'Amélie. C'est terrifiant.
Mais surtout, c'est décrit comme un espèce d'accident. On voit la perversité tout de suite.
On voit la perversité parce que c'est un accident, mais c'est conscient. Enfin, c'est dit. Les deux sont dit quoi? Les deux, et on se dit, mais cette fille est folle, effectivement, est véritablement folle. Et puis, ça induit aussi, cette folie induit une forme d'onirisme. J'ai presque cru me retrouver dans un des romans de Boris Vian. Elle met ses poissons rouges dans le piano. Voilà, enfin, on se dit, tiens, quelle étrange idée, et ils arrivent à tenir un petit moment. Bon, ils dessèchent malgré tout, mais ils arrivent, ça donne, il y a ce côté onirique que donne la possibilité de cette folie de ce personnage. Puisqu'on est dans la psyché de Constance, enfin, on est vraiment dedans, quoi, on se rend compte qu'elle se donne le pouvoir de tout penser, de tout faire, et entre autres, elle fait ce que, en réalité, nous, on aimerait faire. Penser comme elle. Regarder les gens comme elle les regarde. C'est-à-dire, c'est terrible, quoi, le regard qu'elle a sur les gens.
Ah oui, elle n'a plus de surmoi.
Oui, c'est sans concession, c'est direct. Alors, elle ne fait que le penser. Mais des fois, on se dit, bah oui, finalement, c'est pas tout à fait faux, quoi. On pourrait s'autoriser, se permettre ça. Alors, le mot Fredon, donc ce mot Fredon, est utilisé une fois, une seule fois. Il est utilisé page 159, donc je m'empare de mon exemplaire, page 159, il est dit « Ma descente dans les fonds marins, c'était profond, il devait bien s'en rendre compte. » Et Mélodie fit bon. Je me rendis compte que j'adorais ce mot « bon », son côté implosif. Et il fut convenu, et je pense aux fredons qui dans un bruit de nuées sont entrés par ses narines et l'auront désormais mangé de l'intérieur. Et là, on se rend compte que j'ai l'impression qu'elle mélange fredon, frelon. Ça signifie que, comme la musique, finalement, Constance, elle perd aussi ses mots.
C'est surtout que c'est pas le seul cas d'ailleurs. Il y a parfois des termes techniques en musique qui sont utilisés pour désigner des insectes. Et j'aimais bien aussi. Elle a le sentiment finalement que la musique l'agresse, est un bruit qui est violent pour elle. Et donc ça passe beaucoup par cette image un peu d'insectes grouillants ou de nuées de guêpes qui viennent dévorer les humains à bas bruit. Elle a beaucoup elle exprime des espèces de fantasmes de violence envers ses interlocuteurs avec des images comme ça extrêmement violentes.
C'est si on prend la première phrase, j'entends dans un froissement aigu, les feuilles asséchées noircissent et se rétractent. On est déjà là, on est déjà dans cet univers. Mais c'est parce que moi aussi, en lisant Fredon, je lisais aussi Frelon. Je me disais, mais c'est Frelon qu'elle a voulu écrire. Et donc, ça surgit là. L'environnement de Constance, c'est la religion protestante. Le temple revient souvent. Alors, le temple, il est toujours quelque part. Il apparaît toujours quelque part. Ça signifie quelque chose, cet environnement?
J'ai enlevé d'ailleurs les références. Il n'y a pas le mot protestant dans le livre. Et parce que je crois que j'ai voulu aller plus vers quelque chose de... Alors, on le reconnaît, bien sûr, parce que c'est le temple. Mais finalement, temple est aussi un terme assez générique. Et ça me plaisait d'aller plutôt du côté de quelque chose de théologique ou de religieux que de spécifiquement protestant. Après effectivement ça fait partie de ma culture d'origine. Moi j'ai grandi en Alsace et on dit d'ailleurs on dit église et pas temple en Alsace. C'est effectivement quelque chose que je connais, même si je l'ai tiré là plutôt du cliché, du côté du cliché austère, qui est pas du tout le protestantisme que je connais moi. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était cette dimension effectivement théologique en général, et l'idée un petit peu aussi de, on en parlait tout à l'heure, mais d'assignation à un destin, c'est-à-dire on est fait pour faire quelque chose, et donc il faut le faire.
J'ai beaucoup pensé à ça. En fait, ça s'est construit progressivement à la lecture, et je me suis dit, mais elle est prise dans l'apprentissage de la musique, elle est subordonnée à une religion qui est rigoureuse. Enfin, ce qu'on sait de la religion protestante, on retire tous les effets, tout l'apparat, et il reste la religion. Et donc, j'ai beaucoup pensé à ça, en fait, c'est quelque chose qui est né, et je me suis dit, en fait, moi, je vais trouver plein d'excuses à Constance, hein. Moi, j'aime beaucoup cette femme. En fait, j'adore cette femme. Je la trouve magnifique. J'étais un enfant du bruit et de la laideur, décidément. C'est la référence au roman de Faulkner?
Non, alors justement, j'y ai pensé quand vous l'avez lu, mais c'était pas du tout volontaire. C'est peut-être une forme de lapsus. Bon, déjà chez Faulkner, c'est une citation. Hein, c'est chez Shakespeare. Et je crois que chez Shakespeare, ça vient de la Bible. Ça vient de la King James.
Oui, mais c'est plus facile de dire Faulkner. Voilà.
Oui, non, et c'est Bruit et la Fureur, c'est à Faulkner qu'on pense. Hein, c'est sûr. Oui. Et d'ailleurs, Fureur est aussi un mot qui lui va bien.
Oui.
S'il y a du Faulkner là, c'est sous la forme d'un lapsus, ce qui n'empêche pas que c'est sans doute très signifiant.
C'est très signifiant, oui. Le choix de Constance, c'est de s'émanciper. En tout cas, c'est ce qu'elle croit faire, s'émanciper. Et quand avec elle, s'émanciper, c'est s'émanciper de tout, hein. C'est vraiment s'émanciper, de rompre les amarres. Mais ce qu'elle n'a pas imaginé, c'est la conséquence qu'entraîne le fait de rompre les amarres quand on a été assujetti. C'est-à-dire qu'elle elle mesure pas en fait l'état de sa folie et ce vers quoi va la conduire sa folie.
Oui, elle a des moments comme la plupart des fous, comme la plupart d'entre nous, elle se rend compte qu'elle est folle tout en sachant qu'elle est folle. Mais surtout, elle veut pas renoncer non plus. Elle est dans une démarche d'émancipation, effectivement, sans vouloir renoncer à cette impression qu'elle contrôle le monde entier. Et contrôler le monde entier, c'est faire de la musique. Et donc, elle veut s'en débarrasser et en même temps, elle ne peut pas renoncer à ce pouvoir.
Mais c'est donc un chemin. En fait, c'est ce que raconte ce roman, c'est le cheminement d'une personne. Alors, vue par elle-même, faut toujours garder ça en tête parce que on ne sait pas ce que les autres pensent. On a des éléments, mais trop peu pour pouvoir en décider. Et ça va jusqu'à l'errance, enfin la fuite, l'errance jusqu'à très loin en réalité. Elle va très loin. Je sais même pas où est-ce qu'elle va. Elle se retrouve où ? C'est mystérieux ça.
Oui,
moi, j'ai pensé au Canada.
Alors c'est pas ça que j'avais forcément en tête, ouais. Mais c'est vrai que j'ai raisonné plutôt en termes d'images, de paysages, ouais. que de lieux précis. C'est pas ça qui est important, mm-hmm. au fond. Mais elle se retrouve effectivement dans une forme d'isolation et de dénuement.
Mm-hmm. Oui, totalement. Oui. Mm-hmm. Oui, elle se retrouve dans une cabane et seule.
Oui, c'est ça, seule.
En fait, non. Elle dit qu'elle se retrouve dans une cabane. Seule, c'est ce qu'elle dit, elle. En fait, on ne sait pas. On n'a pas d'éléments pour le savoir.
Voilà, elle décrit une espèce de vie, oui. villageoise, quand même, mmh. autour d'elle, qui se restreint de plus en plus, etc. Puis d'une toute une société qui est en train de disparaître. Enfin, mmh. Il y a vraiment tout le temps ces images de dévoration, de disparition, d'effondrement. De... Ouais. Mais encore une fois, on n'en sait rien.
Mais on n'en sait rien. Elle est peut-être simplement paranoïaque, enfermée dans un hôpital psychiatrique, et on n'a que cette lecture-là. C'est assez, mais cette phase finale du roman. Donc on est à l'acmé de, on se demande qu'est-ce qui est possible en plus. Alors si on sait ce qui est possible en plus, et on sait ce qui peut être, ce qui va probablement advenir, mais c'est très très dense, très bouleversant. C'est pour ça que moi j'aime le personnage, parce que y a pas de concession. En fait, elle y a pas de compromis dans sa folie. Elle cherche pas à se faire aimer. Elle...
Non.
écrire Fredon, ça vous a pris combien de temps ?
Je l'ai écrit assez vite, en fait. Je me suis donné du temps, pas l'été dernier, celui d'avant, pour oui, écrire vraiment tous les jours. Et après, moi, j'ai une technique que je conseille vraiment à personne, parce qu'elle est assez chronophage, mais c'est j'écris beaucoup, et après, je coupe et je réécris. Donc, c'est vraiment sur le mode du palimpseste. Mais il se trouve que l'an dernier, j'avais du temps. Et donc, voilà, ça s'est fait en quelques mois, finalement, en réexploitant des fragments que j'avais d'il y a très longtemps, mais qui ont finalement tous été effacés de la version finale. Et donc je l'ai envoyé à l'éditeur en janvier 2023, et puis il a été accepté tout de suite.
C'est un roman de, alors j'insiste, hein, d'une très grande homogénéité, d'une grande tension. Moi j'ai pas, il y a des moments de creux souvent dans des romans, mais là j'ai pas trouvé de moments de creux ou de faiblesse. C'était le projet initial.
Je fais pas de projet, en fait. Mm-hmm. Non, par contre, c'est vrai que j'ai tendance à faire des livres courts, ce qui peut éventuellement empêcher les impressions qu'on est en train de délayer quelque chose.
Souvent, quand on écoute les autrices ou les auteurs, ils disent que leur personnage leur échappe. Constance, elle existait intégralement dès l'origine du roman.
Alors, quand j'entends les gens dire ça, je trouve que c'est un affreux cliché, et en même temps, c'est très vrai. C'est-à-dire que j'ai parlé plusieurs fois de sa folie. C'est à un moment, j'ai compris qu'elle était folle. Enfin, comme si ça dépendait pas tout à fait de moi, ce qui est évidemment un affreux cliché. Mais Mais non, c'est les personnages se composent petit à petit. Ouais.
Ça ouvre, les pistes s'ouvrent au fur et à mesure de l'avancée.
Oui, puis on teste des choses, on se rend compte que en fait, ce qu'on a pu écrire d'elle n'était pas vrai. Mmh. Donc il y a finalement un rapport assez bizarre. Enfin, on considère les choses en termes de vérité et de fausseté, alors qu'on est soi-même en train de créer, de les inventer. Mmh.
Oui. Mais donc on est même si c'est un cliché, finalement les personnages ont ont le pouvoir d'agir sur l'auteur.
C'est ce qu'on se laisse être agi par eux, on va dire.
Oui, effectivement, la formulation est plus interpellante. Vous êtes enseignante, vous êtes autrice, vous êtes chercheuse, vous êtes traductrice, quelqu'un de visite. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune autrice ou à un jeune auteur, ce serait lequel ?
Je pense que ce serait de se demander si c'est, enfin, dans quel genre on veut travailler, en fait, et de garder à l'idée que, même si le roman est un peu au sommet de la hiérarchie des genres et qu'on a l'impression que quand on dit écrivain en français, ça veut généralement dire romancier. Parfois, d'ailleurs, on trouve écrivain et poète, comme si poète pouvait pas être contenu dans écrivain. C'est de se laisser la liberté de faire autre chose que du roman. Mais je crois que de plus en plus, là, ces dernières années, il y a quand même un vrai changement de paradigme par rapport à la poésie, par exemple. Quand je parle avec mes étudiantes et mes étudiants, maintenant, ils en lisent tous, ils en écrivent, ils sont nombreux à le dire. Il y a 5 ans, c'était pas du tout le cas. Donc, c'est peut-être un conseil un peu inutile. Voilà.
Bon, parfois, il faut savoir donner des conseils inutiles. Et aujourd'hui, donc, il y a eu, parce que la nuit... Il y a eu Fredon. Maintenant, Fredon vole de ses propres ailes. Vous travaillez sur quoi ?
Alors, j'ai un autre livre qui sort en septembre, mais qui est en fait un texte que j'avais écrit il y a longtemps, que j'avais un peu qui était en souffrance dans un tiroir.
Un texte en souffrance.
Qui est un. Alors, pour le coup, j'arrive pas à le définir. C'est entre l'essai et quelque chose d'autre, sur un écrivain qui s'appelle Robert Merle.
Ah oui, le magnifique Robert Merle.
Bon, bah, ça me fait plaisir que vous disiez
ça. Non, c'est un grand auteur, Robert. C'est un auteur magnifique.
Alors, je suis bien d'accord, qui a été un peu injustement relégué à la littérature de genre, etc. Donc, bah, je reviens un peu là-dessus, en fait. Il y a toute une partie du livre qui est vraiment un essai littéraire qui se demande, voilà, pourquoi, pourquoi Merle a été comme ça mis de côté, confiné à la paralittérature, et est-ce que c'est juste ou injuste? Et puis c'est entrecoupé de chapitres un peu plus fictifs. Vous vous rappelez peut-être que dans ce qui n'est pas son meilleur roman d'ailleurs, il raconte, ça s'appelle Le propre de l'homme. Mmh. Et donc c'est l'histoire d'un bébé chimpanzé qui a été adopté par un couple de primatologues qui lui apprennent la langue des signes. Et ce petit chimpanzé s'appelle Chloé. Voilà. Et donc je me suis identifiée au chimpanzé Chloé, et ça donne ce texte un peu simiesque. Voilà.
C'est intéressant, cette résurgence de ces littératures-là, effectivement, qu'on a passé un peu au second degré, enfin, comme effectivement de la littérature de genre, pour pas dire de la sous-littérature, alors qu'effectivement, alors, moi, c'est un auteur que j'ai lu il y a bien longtemps, mais vous dites le nom, moi, ça y est, les images, plus que les images, d'ailleurs, c'est le style, c'est l'écriture. Enfin, il y a une très belle écriture, très douce. Et voilà, ça me réjouit. Enfin, réhabilitons Robert Merle, quand même.
C'est les 20 ans de sa mort, en plus, cette année. Donc, c'est l'occasion.
Ah, c'est magnifique. Eh ben, je vais surveiller la parution. Je vous remercie de votre visite, Chloé Thomas.
Merci à vous.
Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. d'écouter Marcus et Shahzad qui ont interprété Subhanallah. Ce groupe est peut-être l'illustration de ce que peut être une terre d'accueil, s'enrichir de celles et ceux qui viennent d'ailleurs pour hybrider naturellement les cultures. Et cela ouvre des portes étonnantes dont il serait dommage de se priver. Radio G sur le 101.5 est un de ces espaces où la diversité peut s'exprimer, donc aussi dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Mais c'est l'heure de la chronique de Julien. C'était inévitable, la rencontre avec Jim Fergus devait obligatoirement avoir lieu, mais l'ingénieux Julien, notre journaliste et bouquiniste ingrandais, a saisi l'opportunité de la sortie de son nouveau roman, Le Monde Véritable, aux éditions Le Cherche Midi, pour en parler. À toi, Julien.
Poignée de Western. Howdy, Luc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre d'un auteur américain né à Chicago et passionné de culture cheyenne depuis son plus jeune âge. Je veux bien entendu parler de Jim Fergus, dont les auditeurs ont peut-être lu ce qui reste son livre majeur à ce jour, « Mille femmes blanches ». Comme beaucoup d'auteurs, rien ne prédisposait véritablement Jim Fergus à l'écriture. D'ailleurs, il devient même à un moment de sa vie professeur de tennis en Californie. Mais c'est alors qu'il s'installe dans le petit bourg de Rand, 13 habitants, dans le Colorado, et qu'il se consacre pleinement à l'écriture. Nous sommes alors dans les années 1980 et il n'est pas encore romancier. Il écrit des œuvres documentaires. Il faut attendre 1998 pour le voir écrire son premier roman. Et quel roman ? Mille femmes blanches, donc, qui relate un bien drôle de programme d'intégration. L'histoire débute par la proposition du grand chef Little Wolf au président Grant de lui octroyer 1000 femmes blanches qui se marieront avec ses guerriers afin de faciliter l'assimilation. Nous sommes en 1874 et cette proposition, pour le moins étrange, va être cependant acceptée. Seulement au XIXe siècle, dans un pays qui est tout juste colonisé, il faut trouver 1000 volontaires femmes. Et là, c'est un échec. Les États-Unis vont donc débusquer des femmes dans les prisons et les asiles pour atteindre froidement leur quota. Et c'est là aussi que débarquent deux des héroïnes de Jim Fergus, celles qui vont jusqu'à aujourd'hui parcourir les pages de 5 de ses romans. Je veux parler de May Dodd et Molly McGill. La première, c'est une jeune femme qui a été internée dans un asile par sa propre famille et qui, pour échapper à son emprise, accepte de devenir la femme de Chance Hadley. Quant à la seconde, institutrice, elle a assassiné son propre mari et a été emprisonnée dans la terrible prison de Sing Sing avant d'accepter, elle aussi, de faire partie de ce programme. Programme non moins terrible que la prison. Toutes deux ont assimilé les rites et les coutumes indiennes. Elles ont fondé une autre famille. Elles ont appris à aimer et respecter les Indiens. Mais toutes deux ont également des envies de retourner à leur vie d'avant. Avec deux récits qui se suivent et se chevauchent, May et Chance et Le Monde Véritable, Jim Fergus aborde cet aspect psychologique de ces deux héroïnes. Pour May, c'est un peu particulier car cette ancienne femme au foyer de Chicago a laissé derrière elle des enfants qu'elle souhaite récupérer ou à tout le moins revoir. On la retrouve donc sur les routes avec son mari indien à la rencontre du mythe du Grand Ouest, croisant même le Wild West Show de Buffalo Bill Cody qui l'embauchera un temps. Le roman de Jim Fergus est dans la plus logique lignée des précédents avec une écriture très classique. Mais c'est bien avec Le Monde Véritable que l'auteur prend des risques. Déjà celui de décevoir le lecteur habitué des séries pantouflardes. Pourquoi ? Parce qu'avec ce petit opus élégiaque, tout empreint de mysticisme, Jim Fergus fait le choix stylistique de la fable. Après tout, c'est logique tant il y a de fabuleux dans le fantastique indien. Il faut voir en effet le monde véritable comme une symbiose entre monde réel et monde astral, avec des Indiens dotés d'un pouvoir magique qui leur permet de passer du premier au second pour y vivre en paix. Et bien entendu, dans ce monde ancestral, immémorial, les Blancs sont exclus. Mais c'est le moment que choisit aussi Jim Fergus pour faire intervenir un autre aspect, occidental, gothique, celui d'un revenant, ancien soldat américain exterminateur d'Indiens, qui débarque avec une horde de soldats, tous aussi fantomatiques que lui, et qui sont une menace pour la tranquillité des Indiens dans ce monde véritable. Mais les Indiens forment des peuples surprenants, des tribus surprenantes, et chacun est capable d'avoir ses propres pouvoirs pour contrecarrer cette menace entre animisme pour les uns et métamorphose pour les autres. Francis Geffard, le directeur de la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel, avait été fasciné par la mystique indienne. Ici, Jim Fergus rend un hommage à cette mystique, un hommage révérencieux dans un petit livre-objet richement illustré au Cherche Midi comme tous ses romans. Le livre est ici minimaliste, élégiaque, avec un style épuré qui lui sied bien. J'ajoute qu'en septembre, l'éditeur de manga, Kana, va entamer l'adaptation de la série 1000 femmes blanches. Le premier volet, Un train pour la gloire, sera dessiné comme il se doit par une femme, Anaïs Barnabé, qui a sorti il y a 3 mois Le Champ des possibles, une très belle bande dessinée chez Dupuis qui nous parle d'amour sur fond de réalité virtuelle. Chacun y verra les passerelles qu'il veut. En attendant, si le monde réel vous effraie et que vous avez envie d'évasion fictive, voire mystique, partez avec May Dodd, Molly McGill et les leurs dans ces contrées doubles et entrez à jamais dans les livres d'histoire grâce au talent de conteur de Jim Fergus.
Je ne te remercierai jamais assez, Julien, d'ouvrir nos yeux sur ce genre un peu méprisé. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, me précipiter dans la librairie la plus proche pour découvrir ce nouveau roman. Entre les pages s'achèvent quelques manifestations à noter dans vos agendas. Comme à Entre les pages nous sommes curieux et que nous nous intéressons aussi à la musique, précipitez-vous le week-end prochain au festival 20 sur 20 à Saint-Jean-des-Mauvrais. Du beau monde à l'affiche avec entre autres rien moins que Archimède et Rouquine. Et pourquoi vous en priver puisque l'entrée est gratuite? Petit rappel, les rencontres avec Sandrine Knud ce vendredi 24 mai à Rive-du-Loire en Anjou et puis le samedi 25 mai à la bibliothèque de Rochefort-sur-Loire organisée par la Miel 49 et par Poésie Cause Toujours. Notez aussi dès à présent le prochain bouillon qui aura lieu le 13 juin à la bibliothèque Toussaint à Angers. 3 invités, Laure Gasparotto, écrivaine, Stéphane Rocher, vigneron et Mathia Angius, caviste, se retrouveront autour du thème littérature et vin. Et enfin, vous rappelez la sortie de Dissonance, la revue pluridisciplinaire à but non objectif, comme ils aiment à se surnommer. Une vraie revue de littérature, cependant fabriquée chez nous. Le thème de ce numéro 46, Fragile, a inspiré 19 autrices et auteurs. La mise en image a été confiée à Edith Landau, et le résultat est tout à fait classieux et enthousiasmant. À noter l'hommage émouvant de Rodolphe Viémont à Jean-Louis Murat. Au cours de l'émission, vous avez entendu Pierrick Menuau et Gaëtan Nico qui ont interprété des Baïcho d'Agua et Marcus et Shahzad qui ont interprété Subhanallah. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 5 juin à 17h avec une rencontre avec Christine Avel et Guillaume Aubin, tous deux en résidence à la maison Julien Gracq. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.
jaugé. 101.5 FM.